Lors d'une conférence de presse, le ministre chinois des Affaires étrangères a estimé que l'Afrique était marginalisée et que la voix du continent comptait peu dans la résolution du conflit en Ukraine. Ce dimanche, Wang Yi, donc conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, était en visioconférence avec son homologue algérien Ramtan Lamamra. Objectif de la conférence, montrer que la Chine continuera à se tenir aux côtés de l'Afrique, qu'elle soutiendrait l'Afrique dans le maintien de la paix et de sa sécurité, dans l'accomplissement de sa relance économique ainsi que dans la défense de ses droits et intérêts légitimes, selon un média d'État chinois. Pour le ministre chinois, donc, alors que la crise ukrainienne a eu un impact majeur sur la situation en Europe et que cet impact s'étendrait désormais au monde entier, l'Afrique en particulier ne doit pas être oubliée ou marginalisée ou encore victimisée. Les médias d'État chinois assurent que la Chine apportera sa pleine contribution à l'indépendance et au développement durable de l'Afrique, un discours qui tranche avec ceux de l'Occident entre les États-Unis, qui ont ces dernières semaines tenté de rallier les pays africains derrière eux pour sanctionner la Russie, et la France qui multiplie les ingérences, notamment au Mali. Pour la Chine, le conflit en Ukraine ne doit pas faire oublier les enjeux du continent. Plus la situation internationale est troublée, plus il faut accorder d'attention aux voix africaines et plus il faut apporter de soutien et d'assistance à l'Afrique, comme l'assure ainsi Wang Yi. Le chef de la diplomatie chinoise estime que l'Afrique, comme la Chine, aurait une carte à jouer dans le conflit russo-ukrainien si elle était écoutée. Nous, donc Wang Yi et ses homologues africains, sommes généralement d'accord sur le fait qu'il existe plus de deux options en dehors de la guerre et des sanctions pour résoudre les questions sensibles internationales et régionales. Un coup de pied dans la fourmilière, là où les ministres chinois et africains des affaires étrangères estiment que le dialogue et la négociation constituent la solution fondamentale à laquelle il faudrait adhérer dans la situation actuelle. Les sanctions pleuvent contre la Russie de la part de l'Occident. Des sanctions qui ont un impact en Afrique, un continent donc qui travaille avec la Russie et l'Ukraine, notamment en termes d'importation de céréales. Les sanctions à l'encontre de la Russie ont frappé l'économie mondiale de manière significative et elles ont un impact majeur sur la relance économique dans les régions moins développées d'Afrique, indique en effet l'Institut des études sur l'Asie occidentale et l'Afrique. Pour Wang Yi, les premières victimes africaines du conflit et des sanctions sont les populations. Le ministre chinois prône la souveraineté diplomatique des pays africains et est partisan du non-alignement qui s'est produit lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous devons résister à la mentalité de guerre froide et nous opposer à la confrontation entre camps, a-t-il simplement affirmé. Le Mali se montre de bonne foi suite aux exigences de la communauté internationale quant à une date des élections, mais visiblement la partie adverse veut absolument jouer la carte de l'intransigeance. Mais pourquoi un tel poids de mesure, donc, alors que la communauté internationale s'est dite accompagnatrice des pays voisins comme le Burkina Faso ou encore le Tchad? Dans le cadre de la poursuite des négociations entre le Mali et la CEDEAO, le médiateur mandaté Goodluck Jonathan avait effectué donc une visite de travail de 24 heures le 18 mars à Bamako. Durant son séjour, il a rencontré les autorités de la transition autour des travaux qui portaient en substance sur la proposition d'un chronogramme de la transition. Le 26 février dernier, la CEDEAO a émis une proposition aberrante du chronogramme qui allait de 12 à 16 mois. Presque un mois après le passage de l'institution sous-régionale au Mali, de cette énième rencontre, un consensus était très attendu. Mais au sortir des travaux, il en ressort que cette fois encore, il n'y a pas eu d'accord. Les autorités de transition, dans un premier temps, ont fait une proposition de chronogramme de 36 mois, comprenant donc des actions relatives aux réformes politiques et institutionnelles, ainsi qu'un plan détaillé pour les élections. Mais cette première proposition n'a pas été acceptée par le médiateur de la CEDEAO, donc Goodluck Jonathan et sa délégation. S'en est suivi d'une deuxième proposition de 29 mois et une autre de 24 mois par les autorités de la transition. Mais la CEDEAO a préféré maintenir sa position de 12 mois au cours des échanges. Et évidemment, sans surprise, les sanctions économiques de la CEDEAO du 9 janvier 2022 contre le Mali sont toujours en cours et c'est bien là le cœur du problème. Alors que le président français Emmanuel Macron a récemment mis la pression, justement sur la CEDEAO et l'Union africaine, pour sanctionner encore plus le Mali, surtout après que Bamako a déclaré sa souveraineté médiatique, il serait difficile de voir la CEDEAO se montrer un peu plus souple vis-à-vis des autorités maliennes. En effet, l'ire de Macron ne s'est pas fait attendre, lui qui comptait justement sur la désinformation pour arriver à faire plier le Mali. Le président Emmanuel Macron avait déclaré donc un signe d'une course en avant vers le pire lors de la conférence de presse organisée pour présenter son programme de campagne. Donc, il parlait évidemment de la suspension donc, de RFI et de France 24. Je condamne donc avec la plus grande fermeté cette décision qui me semble totalement contraire aux valeurs que portent le peuple malien et le Mali depuis son indépendance. Assez surprenant, voyant que c'est la même personne, donc il y a quelques jours auparavant, décidé de la suspension de RT France et de Spoutnik. Mais bon. Le président Emmanuel Macron a également appelé la CEDEAO donc, et l'Union africaine à être plus ferme au niveau des sanctions contre le Mali. Donc, jusqu'à présent, le régime de sanctions à l'américaine pour asphyxier un pays souverainiste a clairement été un échec. Et pour cause, les chiffres de la campagne cotonnière 2021-2022 au Mali ont été officiellement dévoilés ce samedi. Et c'était à l'occasion de la fête du coton à laquelle a participé le président de la transition, Assimi Goïta. Selon les informations publiées par la présidence du Mali, le pays a retrouvé sa place de leader en Afrique en matière de production cotonnière. Le Mali retrouve sa place de leader sur le continent à travers une production record de plus de 760 000 tonnes au titre de la campagne 2021-2022, informe la présidence. Et avec cette production qualifiée de record par les autorités maliennes, le Mali brise pour le moment la barre de 728 000 tonnes de coton imposée par le Bénin depuis la campagne cotonnière 2020-2021. Le pays passe devant le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et oui, le régime de sanctions ne fonctionne visiblement pas à isoler le Mali, ce qui fait que la CEDEAO n'allait certainement pas montrer qu'elle allait aller à contresens de la volonté de Macron, car ce n'était évidemment pas du tout le moment. Cela dit, on se pose quand même certaines questions comme que se passerait-il donc si la CEDEAO arrêtait justement de s'accorder aux quatre volontés des pays occidentaux et suivait sa propre voie. Mais surtout, concrètement parlant, que va faire Emmanuel Macron à ce moment-là, si la CEDEAO décide donc de suivre la voie africaine? En Centrafrique, alors que Bangui déploie des efforts incommensurables dans le but de préserver l'unité du pays en lançant notamment le dialogue républicain, les différents groupes armés continuent donc leur tentative de sabotage et la MINUSCA s'active également dans ce sens. Et pour cause, voici ce que les autorités donc centrafricaines ont découvert récemment. En lieu et place du maintien de la paix, la MINUSCA donc continue de tout faire pour que cette crise soit prolongée. Il ne se passe pas un seul jour sans que la MINUSCA ne puisse occasionner des forfaitures en Centrafrique. Et grâce à la vigilance de la gendarmerie nationale, la MINUSCA vient d'être encore une fois démasquée pour la énième fois. En effet, c'était depuis le 16 mars 2022 que la gendarmerie au niveau de Beloko a stoppé deux camions transportant chacun deux conteneurs lorsque les six autres sont déjà entrés dans la base de la MINUSCA à Bouar. Ces camions étaient en provenance du Cameroun. Sur chacun de ces camions privés, il y avait l'emblème des Nations Unies. Ayant suspecté ces deux camions transportant quatre conteneurs, ils ont été escortés par les forces nationales jusqu'au niveau de la gendarmerie nationale à Bangui pour nécessité d'enquête. C'est finalement le vendredi 18 que la gendarmerie a procédé à l'ouverture de ces quatre conteneurs pour découvrir qu'ils sont remplis des armes et des munitions qui sont interdites d'entrer sur le territoire centrafricain. Précisons que parmi ces quatre conteneurs qui sont stoppés, donc deux sont remplis des mines antipersonnelles et deux autres sont remplis de matériel bureautique. Pour plus de précision, donc chacun de ces véhicules privés contient un conteneur donc des Nations Unies, de matériel bureautique et un conteneur UN, donc rempli des mines antipersonnelles et d'autres munitions et matériel de guerre. Une véritable contrebande des armes et la déstabilisation de l'économie de la République centrafricaine. Et à grand jamais, les armes, les munitions de la MINUSCA ne doivent être mélangées avec des matériels bureautiques pour être amenées sur le territoire centrafricain. Pourquoi la MINUSCA fait entrer des munitions de ce genre sur le territoire centrafricain sans que les autorités politiques et militaires ne soient informées? Conformément au mandat de la MINUSCA, ce n'est pas de cette manière qu'elle doit faire venir des armes, soit des munitions en Centrafrique. C'est une véritable contrebande que la MINUSCA a occasionnée. Des armes et munitions de la grande marque, donc pareil, ne peut faire leur entrée sur le territoire sans aucune escorte. Où sont passés les éléments de la MINUSCA pour escorter ces armes? Ce qui est étrange, au moment de la découverte de cette contrebande d'armes et munitions de guerre de la gendarmerie, un commerçant survient pour dire que les matériels bureautiques lui appartiennent. Comment les marchandises d'un commerçant est dans un conteneur UN? Et qu'en est-il des deux autres conteneurs remplis de munitions de guerre? Ce qui est encore étrange, depuis que ces deux véhicules avec un conteneur UN sont arrêtés au niveau de Beloko et escortés jusqu'à Bangui, la MINUSCA n'a toujours pas réagi, n'a pas fait de déclaration ou bien demandé des explications quant à cette arrestation. Il est bien clair que la MINUSCA est coupable de cette contrebande des armes et munitions, mais cette grande quantité des armes et munitions sont destinées à faire quoi ? Selon un centrafricain témoin de la découverte de cette contrebande dévoilée par la gendarmerie, c'est vraiment un plan stratégique de la part de la MINUSCA. C'est ça l'opération de déminage des mines par la MINUSCA. Avec cette découverte, nous pouvons dire et comprendre que c'est la MINUSCA qui fournit des mines antipersonnelles aux éléments de 3R dans la région de Bouar. C'est pourquoi ces véhicules prirent donc la destination de la ville de Bouar et en plus de ces armes. Tout le monde peut comprendre que la MINUSCA occasionne des pertes économiques à l'État centrafricain, car la MINUSCA fait entrer des marchandises privées voilées par l'emblème des Nations Unies. Au lieu d'aider pour le retour à la paix, visiblement, c'est la MINUSCA qui crée donc les tensions, la crise et la division en République centrafricaine. Le peuple centrafricain est appelé à dire non à la MINUSCA, car tant que cet organe est sur le territoire centrafricain, il n'y aura jamais de paix et de sécurité, a fait savoir un centrafricain très mécontent. Il est important de relever ici la responsabilité du secrétaire des Nations Unies, car pour des questions qui touchent la vie des Centrafricains, il ne se prononce jamais. Mais quand c'est un seul du personnel, donc un seul membre du personnel de la MINUSCA, on assistera à des séries de communiqués pour dénoncer. Cette politique de deux poids deux mesures du secrétaire général de l'ONU doit cesser. Et au même moment, l'ONU impose en plus l'embargo injuste sur les armes à destination de la République centrafricaine au même moment. Donc, où la mission de l'ONU fait entrer des armes et munitions de guerre qui sont d'ailleurs interdites par le droit de la guerre. Une mission de maintien de la paix comme la MINUSCA n'a même pas droit à utiliser des mines antipersonnelles. Donc, ce qui est sûr, c'est que la MINUSCA est toujours de mèche avec les groupes armés pour leur livrer ses armes, munitions et mines antipersonnelles. En tout état de cause, la nécessité d'une enquête urge et la MINUSCA a obligation de donner des explications concordantes aux autorités centrafricaines dans les plus brefs délais. Surtout, la nécessité de mettre une bonne fois pour toutes la MINUSCA à la porte devient une priorité absolue. Aucun processus de sécurisation, d'unification, de paix ne pourra être pleinement opérationnel tant que les troupes d'occupation occidentale sont encore dans les parages.
Alpha Condé déclenche la polémique en Guinée et égratigne Ouattara. Alors qu'il est officiellement à Abu Dhabi pour des soins médicaux, l'ancien président guinéen Alpha Condé, renversé par un coup d'État militaire le 5 septembre 2021, a déclenché une vive polémique dans son pays. Il a par ailleurs révélé des problèmes en Côte d'Ivoire. L'ancien président guinéen Alpha Condé, annoncé malade et évacué à Abu Dhabi pour des soins, semble avoir repris du poids de la bête puisqu'il est en état de s'intéresser à la politique dans son pays et même donner des orientations pour une éventuelle reconquête du pouvoir. Depuis la capitale des Émirats arabes unis, Alpha Condé cherche à réorganiser son par le RPG arc-en-ciel. Il faut que le parti soit en ordre de bataille parce que en Guinée, ça va aller très mal. Dans tous les autres pays, ça va aller très mal, mais particulièrement en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent et tous les prix sont montés. J'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, tous les prix vont monter en flèche. Pour éviter les divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale, a lancé l'ex-président guinéen dans un audio diffusé ce samedi. Pour le moment, on a deux choses à faire, nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m'avait soutenu ensuite à travers deux fils de l'abbé. On peut gagner les gens de Selou avec qui j'avais commencé à travailler, c'est-à-dire il faut élargir et tirer le tapis sous Selou. Et il y a des gens qui peuvent ça pour nous, qui vivaient, qui avaient commencé à travailler avec les gens de Selou qui veulent le déstabiliser, a poursuivi Condé. Alpha Condé qui estime que s'agissant de Sidia, tous ces gens sont avec nous, lance que s'agissant de Selou, je crois qu'il est très déçu parce qu'il pensait que le changement allait l'aider et je crois que ce sont eux qui vont s'opposer de plus à Doumbouya. Donc, il faut qu'il y ait Khalil, Damaro, Kazori, il faut que dans l'ensemble, il y ait une gestion collégiale. Zakaria ne représente rien, une sortie qui secoue la Guinée. Cette sortie m'a fait pitié, honnêtement. S'ils ne se rendent pas encore compte que depuis le 5 septembre, il n'est pas le président de la Guinée, ça devient grave. Depuis 11 ans, c'est le même discours qu'il a tenu, en tout cas en ce qui concerne l'UFDG. J'ai l'impression que M. Alpha Condé continue toujours de considérer Selou Dalien comme son cauchemar, a réagi le docteur Fodé Oussou Fohana, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, chargé des affaires juridiques et sociales. Docteur Fodé Oussou Fohana va plus loin, soulignant que Condé donne l'impression comme s'il n'a jamais été malade, comme si le diagnostic qui a été fait n'était pas vrai. Mais à l'UFDG, on est très habitué à ces discours. Quand il dort, c'est Selou. Quand il se réveille, c'est Selou. Quand il voyage, c'est Selou. En fait, il voit Selou partout. Peut-être qu'on peut soigner toutes les maladies qu'il a, sauf la hantise de Selou. Ce qui me gêne, c'est qu'il met les gens qui l'ont autorisé à aller se faire soigner dans une situation inconfortable. Il y a ça aussi parce que l'objectif de sa sortie, c'est pour se faire soigner. Un malade qui est en train de célébrer son anniversaire. Et puis j'ai l'impression qu'il est en forme, qu'il a pris du poids. Il dit que la Guinée va aller très mal. Il ne faut jamais souhaiter ça à son pays, estime Fodé Oussou Fofana. Burkina, des dizaines de terroristes neutralisés à Djibo. L'armée burkinabé affirme dans un communiqué ce dimanche 20 mars 2022 avoir neutralisé des dizaines de terroristes à Djibo à la suite des opérations menées dans les environs de la ville. Après l'annonce du porte-parole du gouvernement de la transition, Lionel Bilgo, au sortir du Conseil des ministres du vendredi 18 mars 2022, faisant cas du déploiement de la stratégie militaire pour lutter contre les terroristes, notamment à Djibo, l'armée informe ce dimanche dans son point mensuel des opérations du 15 février au 15 mars 2022 avoir neutralisé des dizaines de terroristes dans cette localité. Les opérations militaires qui sont de diverses natures et qui se poursuivent ont déjà permis de neutraliser plusieurs dizaines de terroristes dans les environs de la ville, lit-on dans le document de l'armée qui informe que des individus suspects ont également été appréhendés. Selon le communiqué, l'action des unités militaires consiste également à sécuriser les accès à la ville afin de faciliter les ravitaillements. Des alertes avaient été plusieurs fois lancées sur les incursions des terroristes dans cette localité du territoire. $127 millions pour désenclaver les zones pastorales à l'est du Niger. La Banque africaine de développement, la BAD, a alloué $127,8 millions, dont $56,8 millions sous forme de dons au Niger pour la réalisation du projet de désenclavement des zones de production agro-pastorale à l'est du pays, à la frontière avec le Nigeria. Le projet intégré de désenclavement des zones de production transfrontalières Amdara-Vacha-Dungas, frontière du Nigeria, vise principalement l'aménagement et le bitumage de 110 km de route. Si le transport sera amélioré et le temps réduit, la route permettra aussi de soutenir les chaînes de valeur agropastorales avec notamment la création de parcs de vaccination du bétail, l'installation d'unités de laitières, la fourniture d'intrants et de petits équipements de production agricole. Elle favorisera aussi les services sociaux de base. La région de Zinder est une zone agropastorale où l'élevage est combiné avec d'importantes activités agricoles. Elle englobe les communes rurales directement concernées Amdara, Vacha et Dungas. Elle est peuplée de plus de 360 000 habitants en 2021. Le Mali retrouve sa place de leader de la production de coton en Afrique. La menace djihadiste n'a pas freiné la production de coton au Mali puisque le pays retrouve sa place de leader de production du coton en Afrique devant le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso avec une production record de 760 000 tonnes pour l'année 2021-2022. L'information a été annoncée hier samedi par un tweet du compte officiel de la présidence du Mali. La production se concentre autour du Sikasso, au sud du pays, région moins affectée par le terrorisme. Pour cette campagne, la météo a été clémente et le prix relevé à 280 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 0,40 centimes d'euros, confirme Abdel Saï, président des Jeunes pour la valorisation du coton, au micro d'Ariane Gafuri au service économie. Mali a fait un taux de record cette année avec un record de 760 000 qui est une première au Mali, mais au début, il faut reconnaître qu'il y a eu une forte implication des autorités de la transition qui ont fait du coton une priorité. Avant la bonne santé, il faut avouer que d'abord, le coton malien était en rouge. Le coton a chuté un peu plus de 200% et cette raison était liée d'abord au prix du coton qui a vraiment découragé les cotonculteurs. Cette année, le gouvernement de la transition a proposé un prix favorable. Au lieu de 250 FCFA, ils ont augmenté à 280 et le prix des intrants aussi étaient sponsorisés à hauteur de 11 000, ce qui a véritablement impacté sur la grande mobilisation de l'ensemble des zones cotonnières qui ont cultivé le coton et qui donnent au moins cette santé du coton malien. Donc aujourd'hui, le Mali redevient le leader en termes de production cette année.